Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de votre émission littéraire Un livre sur le zinc, saison 3, épisode 1. Après la formidable émission des livres d'été sous la pluie où nos chroniqueuses vous avaient proposé des livres proches de la dépression à lire pendant ces vacances d'été, ce qui, soit dit en passant, était bien vu au vu des conditions météorologiques qui nous ont accompagnés pendant cette pause estivale où l'on était plus près d'attraper le bourdon ou d'avoir le cafard que d'entendre les cigales ou les mouettes qui avaient délaissé les plages bretonnes chères à Pauline pour se rendre en meute sur les réseaux sociaux afin de s'en prendre à nos chers météorologues qui, à défaut d'avoir une vision juste du temps qui doit arriver, ont pris comme nous des vacances sous la pluie où ils ont pu lire les livres d'été proposés par nos chroniqueuses lors de cette dernière émission, les livres d'été sous la pluie. Heureusement pour vous, chers lecteurs et chères lectrices, chers auditeurs et chères auditrices, nous allons reprendre aujourd'hui avec le soleil, des températures douces et agréables, non pas dues à une dépression qui nous aurait amené du vent, de la pluie, un état de déprime, mais à une émission méditative consacrée aujourd'hui à de la lecture zen, qui dit zénitude, dit bonheur, joie. Claire a d'ailleurs tenu à se rattraper, fini les actes de félonie, les trahisons littéraires. Nous ne parlerons pas de drames, de contes où les esprits maléfiques prennent le dessus, où les personnages naïfs se font avoir par de cupides personnages. Claire ?
Oui, bonjour.
Mais Claire, tu m'as donné ce conte horrible qui se termine fichtrement mal.
Ah oui, à mon corps défendant.
Valérie, ne me dis pas que tu as une histoire qui se finit mal.
Non, je l'ai pas. Je vais pas la présenter du coup, parce que c'était plusieurs histoires, c'était des contes sordides.
Bonjour Popo.
Ça présage rien de bon chez moi non plus.
Shoah, excision, mutilation.
Non, pas tant.
Non, pas tant. Pas ça aujourd'hui. Salut Marlène.
Kozuz un peu là.
C'est pareil avec Marlène.
Voilà, vous avez répété ça Marlène, tout l'été en fait, sous la pluie.
Et on attendait, c'est ça. Marlène qui nous a ramené des objets, dont ce joli bol tibétain qui se nomme...
Bol tibétain.
Ça aurait pu avoir un nom. Ça aurait pu s'appeler, je sais pas, un kudzuki ou un truc comme ça, tu vois. Non, pas du tout. Un bol tibétain que tu as ramené d'où ?
Celui-là, il vient du Népal.
Ah, donc il vient de ces pays dont on va parler aujourd'hui, le Népal.
Donc c'est un bol népalais.
Et on va pas parler que du Népal, tu as ramené d'autres objets qui viennent d'autres pays que l'on va évoquer.
Autour de mon cou, j'ai une kata, on peut dire kada aussi, blanche. Donc c'est normalement offert aux lamas.
Mm-hmm. Qui ne sont pas des animaux, parce que moi j'ai découvert ça dans mon livre.
C'est ça.
Ah, c'est quoi des lamas ?
Ah, c'est ça. C'est les moines bouddhistes.
Ah d'accord. Okay. Et ça vient d'où ?
Celle-là, elle vient du Bhoutan.
Du Bhoutan.
Et le moulin à prière, il vient du Népal.
Ok, excellent. Donc, on ne peut pas les montrer. Alors,
non.
Ce moulin, explique-nous un peu, Marlène, ça consiste en quoi, en fait ?
On le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Des W40.
On m'a n'épet me home, on m'a n'épet me home, on m'a n'épet me home, on m'a n'épet me home.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Écoute-moi. Comment ?
Écoute-moi.
Écoute-moi. Non. Non, c'est en fait c'est juste qu'on prie Bouddha et on lui demande d'exaucer nos prières, mais après en fait il faut dire d'autres choses selon ce qu'on veut.
Prier, ah oui, parce que j'allais te
pour
dire
pour remettre un malade
après mais ce qu'il aussi
pour faire que y ait du bonheur et de la prospérité sur une maison, pour enfin voilà, en fait ça va dépendre de ce qu'on veut prier.
Et quand on l'ouvre, il y a un papier plié avec la prière inscrite.
C'est ça.
Voilà.
Mais comme je ne sais pas lire ce qu'il y a écrit dessus, je ne sais pas.
Il y a plein de principes tant que le papier, vas-y, inscrit.
Voilà. Tant que le papier reste enroulé collé, c'est que la prière ne peut pas être exaucée. Il faut continuer à faire tourner le moulin et à prier.
T'as pas assez prié.
C'est ça.
Mais encore bien.
Ça, c'est format mini, parce qu'après, ils ont des très, très grands moulins à prière. qu'ils vont tout le temps toucher avec la main droite pour la tourner toujours dans le sens des aiguilles du montre. Et pareil, ils font la même chose, où ils tournent autour.
Ok, génial. Mais Marlène, c'est toi qui vas commencer cette émission, vu que tu as lu à peu près 72 livres et que les autres n'en ont lu qu'un. Histoire en couleur de Kunzong Choden, que l'on aurait pu aussi nommer Histoire de femme haute en couleur.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Bien joué.
Exact. Du coup, donc, c'est Choden, c'est une Bhoutanaise. Donc, c'est un livre, du coup, d'une personne qui a voulu retranscrire un petit peu, voilà, le Bhoutan. D'autres chroniqueuses auront des livres à présenter là-dessus aussi. Donc, sur Histoire en couleur, c'est 13 petites historiettes ou nouvelles qui reprennent, comme tu l'as dit, Ludo, plutôt la condition des femmes et qui essayent de les mettre en avant. Alors, dans les traditions quand même, hein, puisque du coup, ben voilà, on apprend ce qu'est la signification de leur prénom, pourquoi elles n'ont pas forcément, à l'inverse de nos traditions à nous, le nom de leur père ou le nom de leur mère à défaut, voilà. Là, c'est vraiment le prénom qui est donné pour une raison et qui est expliqué pour dire, ben, c'est la sagesse, c'est... voilà, ça dépend ce qui est décidé par le lama.
Qui n'est lui... pas un animal.
Comment ?
Qui n'est pas un animal, mais un chitra.
Qui n'est toujours pas un animal. Voilà. Donc, du coup, il y a ça. Mais il y a aussi, en fait, toute la vision des femmes qui se retrouvent dans un pays qui s'occidentalise.
Ah
voilà. Super dur à prononcer. Et du coup... moi, ces femmes qui sont super super belles avec leurs colliers traditionnels, etc., tous leurs bijoux, et ben voilà, la dernière mode, elles vont vouloir le piercing au nombril, le tatouage à la cheville, enfin voilà, des choses comme ça. Donc en fait, ça nous permet aussi de voir ben l'évolution des mentalités et de voir que ben effectivement ça change. Bien sûr, elles sont dans toutes les tâches plus ou moins ingrates, hein. Celles qui sont chargées du fumier, celles qui sont chargées de faire les corvées les plus compliquées, alors qu'on pourrait se dire c'est plutôt les hommes, mais voilà, on le retrouve dans plein d'autres cultures. Il y a aussi tout un pan dans ces petites historiettes qui permet de s'intéresser un petit peu aussi à l'évolution de la société, mais dans le sens où l'arrivée du bouddhisme a déjà réintégré... comment dire, les bonnes qui étaient animistes, qui ont été absorbées en fait par le bouddhisme au Bhoutan, et après eux, ils ont été un petit peu absorbés par le protectorat anglais, légèrement, parce que c'est quand même resté assez protégé comme pays, mais voilà, on voit toutes ces évolutions là.
Rappelle-nous où est le Bhoutan.
Alors le Bhoutan, il est donc du coup il comprend une grosse partie de la chaîne himalayenne. Et il est coincé. Il est entre, du coup, la partie du Tibet, le Népal. Voilà.
Ouais. D'accord. Voilà. C'est un peu là que vont se situer nos histoires aujourd'hui sur l'Himalaya, sur cette grande chaîne montagneuse.
Voilà. Et du coup, après, ben, justement, il y a eu une sorte de protectorat népalais par la suite, même si la royauté est restée ancrée très longtemps, parce que ça fait pas très longtemps que le roi et la reine ont décidé de ne plus intervenir pour le Bhoutan, en fait. La monarchie, c'est le dernier roi, là, qui est très jeune, en plus, qui a décidé que, du coup, il ne voulait plus régenter son pays, en fait. Mais ça fait vraiment pas longtemps. Voilà. Donc, du coup, voilà, ces petites historiettes, on retrouve ça. Alors, c'est ce que j'ai dit à Claire, j'étais un tout petit peu déçue, dans le sens où... bon, peut-être que j'avais envie de retrouver ce que j'avais vu il y a quelque temps, puisque j'ai eu la chance d'y aller. Il y a très peu de touristes qui ont la chance d'y aller, parce que c'est un pays qui reste quand même très fermé là-dessus. Et en fait, si on lit les histoires, honnêtement, on peut les transposer, à part les noms et à part les villages, etc., on peut transposer ça à plein d'autres cultures et plein d'autres endroits. D'accord, l'alcool, ça s'appellera pas l'aka, ça s'appellera autre chose, ça fait voilà. Et le dzong, le monastère, ce sera autre chose. Mais en fait... voilà, c'est... Bon, peut-être que j'avais trop d'attentes aussi là-dessus, donc du coup, je me suis dit, mais après, si vraiment, honnêtement, si on a un regard et qu'on veut savoir un petit peu comment ça se passe au Bhoutan, quand même, on en apprend...
Voilà. C'est une femme qui écrit.
C'est une femme qui écrit, ouais. Qui écrit, qui est partie, ben justement... Elle est partie en Inde pour ses études.
À 9 ans. Au Darjeeling.
C'est ça. Mais en fait, parce que souvent, c'est les familles étaient obligées d'envoyer dans les pensionnats parce que c'est très loin, les écoles, il y en a très peu. Et de toute manière, c'était un petit peu comme nous ici, c'est-à-dire que on mettait au moins un enfant dans les monastères pour qu'il apprenne vraiment et qu'il devienne lama. Et en même temps, c'était aussi une façon pour les familles, alors, je peux pas dire se débarrasser, mais d'être sûr que leur enfant il soit nourri correctement. Parce que bien souvent, les jeunes qui sont dans les monastères, en fait, c'est parce que les familles n'arrivaient pas à subvenir à tous leurs besoins. C'était voilà, autant nous, sur nos cultures, c'était vraiment, il fallait que quelqu'un soit dans la religion, c'était important. Là, c'était plus, je suis sûre que mon enfant, il sera bien élevé, qu'il apprendra le monde d'une manière, d'une certaine forme, quand même, voilà, et qu'il sera bien nourri.
Voilà. Voilà, elle a fait des études de psychologie après à l'université de New Delhi. Elle s'est installée aux États-Unis pour terminer sa formation en sociologie dans le Nebraska à peu près. Et elle a choisi en 90 de s'engager dans l'écriture à la base pour dénoncer le statut des femmes dans son pays, autant que pour laisser des traces de ces traditions orales qu'on a dans au Bhoutan. Et elle est la première Bhoutanaise à avoir publié un roman qui s'intitule Le Cercle du Karma. C'était en 2007, livre que va nous présenter d'ailleurs Valérie.
Mais avec grand plaisir. Et puis c'est super parce que la transition est toute faite. Et j'avais absolument rien préparé pour la bio. Et alors moi, j'ai découvert cet après-midi, quand j'ai voulu préparer un résumé que j'ai pas fait, que je connaissais donc cet auteur, puisque je m'étais servi d'un de ses livres de contes sur les... je crois que c'est Le Singe Facétieux. J'étais en train de vouloir rechercher, mais Ludo m'a donné la parole. Voilà, donc c'était voilà, juste le petit clin d'œil. Mais moi, ça a été un grand coup de cœur, parce que je suis pourtant quelqu'un de très zen, hein. Mais je ne connaissais absolument pas, mais alors absolument pas, la culture bhoutanaise. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et donc j'ai pris le cercle du karma parce que, je sais pas, il s'est mis dans mes mains alors que j'ai rien demandé, donc certainement un signe du destin. Et il y avait un prologue au départ du livre que j'ai pas lu et j'ai été directement donc dans l'histoire. Donc l'histoire, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'appelle Tsomo, qui est issue d'une famille de 12 enfants. Et cette jeune fille, en fait, on va suivre sa vie. Donc, son père est un gomchen. Donc, c'est une personne qui est laïque, mais qui pratique la religion. Donc, ça, déjà, pour moi, ça a été une première difficulté à comprendre comment un religieux peut être laïque. Puisque, mais en fait, ça donne l'impression, dans le livre, ils expliquent ce qu'il fait au quotidien, comment ils vivent. Et c'est plus un état d'esprit, j'allais dire, que vraiment une religion. Donc ça, c'était déjà très, très beau. Et dans ce livre, on voyait comment elle vivait dans des conditions quand même hyper difficiles. Ce que tu disais, Marlène, une famille très pauvre qui avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts. L'aîné était parti pour être lama. Normalement, c'était... Je cherche mes mots, c'est le masque, j'ai du mal à respirer. Mon cerveau s'atrophie. au Népal, voilà, je vais y arriver. Au Tibet, pardon. Et donc, elle parle de ses frères, de ses sœurs, beaucoup de sa mère qui tissait beaucoup. Et donc, le livre se déroulait au rythme des tissus, enfin du tissage, pardon. Voilà, et donc ça avançait comme ça, donc sa vie, et puis il y a beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui sont imputées au karma plus qu'au hasard de la vie, et c'était très comment dire, ça décrivait des conditions de vie rudes, pauvres, et je pensais que c'était une histoire qui se déroulait il y a très 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 longtemps. Et en fait, au fur et à mesure que l'histoire passe, donc Tsomo, donc sa mère, meurt en couche de son 13e enfant, et le père donc se remarie avec une dame. Donc déjà, ça surprend. Le mode de mariage, même au Bhoutan, c'est surprenant. C'est-à-dire que les gens se fréquentent, il se passe rien, mais ils sont mariés femmes. Voilà, il n'y a pas de... C'est comme ça. C'est un fait. Les choses arrivent de façon mais très simple, très... Et Tsomo, donc, elle se marie. Enfin, son père, pardon, s'est remarié, et quand elle passe un peu de temps, elle aussi s'est remariée. Son mari part avec sa jeune sœur, ce qui paraît sordide pour nous occidentales, mais qui est pris là-bas comme quelque chose de fatalité. Donc, elle s'en va, elle décide de partir à travers le monde, enfin le monde qui l'entoure, hein, jusqu'à dans l'Himalaya. Elle va partir en Inde, tout en ayant comme objectif de devenir religieuse. Et c'est là, en fait, dans son voyage, quand elle commence à découvrir les voitures, les autobus, les camions de chantier qui font du goudronnage, que j'ai réalisé qu'on était dans les années 60. Et là, ça m'a mis une espèce de claque, parce que je me suis dit, waouh, en fait, cette qualité de vie, ce mode si calme, si, qui peut paraître sordide à par moment, j'ai eu beaucoup de mal à pas m'offusquer, justement, de cette condition des femmes au bout de temps. Mais en fait, elles avaient tellement l'air de s'en accommoder, en fait, d'être heureuses malgré tout, que je me suis sentie obligée de m'accommoder aussi de ça. Et c'est vrai c'est vraiment un monde à part, en fait. On en entend parler, puis là, en le lisant, parce que c'est un gros livre, avec beaucoup, beaucoup de détails, on se dit, waouh, c'est fort, quand même. Enfin, c'est pas une religion, ouais. C'est vraiment un état d'esprit, enfin ce bouddhisme, ce zen plutôt. Moi, j'ai ressenti un peu le zazen ou des choses comme ça. Et voilà, donc on suit le parcours initiatique donc de Tsomo, qui, quand on lit le quatrième de couverture, on apprend qu'elle veut être religieuse. Mais finalement, sur les 400 et quelques pages qu'il y a, c'est qu'au bout de la 380e qu'on apprend qu'elle y parvient. C'est pas du tout de spoil, hein, puisque c'est écrit. Mais entre-temps, on suit sa vie avec la rencontre avec les lamas, donc qui ne sont pas des animaux. On va dans des temples, on voit comment les gens survivent. Enfin, c'est tout beau, tout doux, tout calme. Et en même temps, c'est très, très vivant parce qu'il y a beaucoup de monde tout le temps. On sent beaucoup la foule, la population, voilà.
Enfin, en Inde, il doit y avoir une effervescence quand elle arrive dans ce pays.
Mais même quand elle est au Bhoutan, parce qu'elle est dans une ville qui paraît être assez grande, quand elle part au Népal aussi.
C'est relatif, du coup, c'est pas très grand non plus.
Oui, mais bon, c'est plus, enfin, tu vois, nous qui habitons en Inde, dans les villages à côté, enfin, voilà, on peut pas, et c'est, voilà, c'était très, très beau. Voilà. Et c'était un plaisir de lire ça. Je n'étais pas super emballée par le thème. Et puis finalement, waouh.
Alors, elle est née en 1952. Mmh. Donc, voilà, tu me dis, dans les années 60, l'héroïne part vers 15 ans. Mmh. Donc, on y est. Hein,
oui, c'est ça.
67,
oui, c'était...
à peu près.
Mmh. Peut-être tu veux le dire après, Ludo, je ne sais pas. Mais le Bhoutan, c'est le pays qui est classé BNB.
Oui.
Ah oui, le bonheur national.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais je peux pas. Après, il y a des choses que j'ai trouvées super dures sur la médecine, par exemple, où on va faire appel aux magiciens plus que à des médecins. Enfin, il y a les femmes, en fait, des petites choses qui étaient un peu compliquées à accepter. Moi, c'est vraiment la chose qui m'offusquait de temps en temps. Je grinçais un peu des dents sur la condition des femmes,
mais quelque chose de commun au reste du monde finalement.
Oui, mais peut-être vu, enfin quand
peut-être
tu sais
un peu moins dans les années 60.
Oui, voilà, quand tu vois la période des années 60, tu te dis c'est pas, voilà, ça devrait pas.
On n'a pas lu d'extrait de vos livres, ça serait bien qu'on entende un extrait. On va vous laisser chercher, on va peut-être passer à l'auteur d'après parce qu'on change d'auteur. Les livres, c'est quelle maison d'édition? On n'a pas dit non plus. Marlène, dis, parle bien au micro.
Du coup, pour moi, c'est Actes Sud.
Ok.
Moi, c'est chez Babel.
Ok, chez Babel. Mmh. Vous avez un extrait ou change d'auteur?
Oui.
Marlène, vas-y, à toi l'honneur, t'as commencé. Parle bien au micro, que tu as un micro qui est un peu moins puissant que les autres.
De retour dans la maison de ses hôtes, Tsewang Doma n'eut de cesse d'enlever sa kira pour admirer sa nouvelle acquisition dans le miroir. Elle ôta sa ceinture, se débarrassa de sa kira sur le lit, et baissant son jupon, mit son ventre à nu. Elle se planta devant le miroir en pied. Les deux femmes s'approchèrent pour regarder de plus près. Aucune, jusqu'ici, n'avait vu d'anneau au nombril pour de vrai. Tsewang Doma examina son précieux trésor dans le miroir, le touchant du doigt avec hésitation, comme une jeune mère admirant son bébé nouveau-né. « Comme ça brille, regarde, ça étincelle, c'est joli, non ?» Elles s'esclaffèrent. C'est de la folie.
Moi, je vais justement le passage où Tsomo devient nonne, en fait, où le lama Rinpoche, la nomme nonne, elle part donc dans le village où elle vit, se faire raser la tête. Donc, quelque part, à un certain moment de sa vie, Tsomo avait appris que la tête d'un être humain était sacrée et qu'on ne devait pas laisser n'importe qui la toucher. Les habitants du billard étant, lui avait-on dit, de la même lignée que le Bouddha, sa tête ne serait pas souillée au contact de leur même. Tsomo s'était jusque-là toujours coupé les cheveux elle-même pour éviter d'être touchée par n'importe qui. Dans son village, au Bhoutan, les femmes se coupaient mutuellement les cheveux. Depuis qu'elle était seule, elle posait son petit miroir contre un appui quelconque et les coupait par petites mèches. Puis, elle les rassemblait dans un morceau de papier, qu'elle brûlait aussitôt avant que le vent ne les emporte, au risque de lui provoquer des vertiges ou de lui porter malchance si des gens marchaient dessus. Elle regarda le coiffeur lui raser la tête. Les cheveux tondus tombaient sur le sol sans qu'il fût possible de les distinguer de ceux qui s'y trouvaient déjà. Pourquoi se croyait-elle toujours si différente des autres ? Elle réalisa que la plupart des gens, hommes ou femmes, riches ou pauvres, ont tendance à se placer au centre de toutes leurs actions, comme si tout tournait autour d'eux. Puis, ce furent ses oreilles qui attirèrent son attention. Des oreilles avec des trous si grands que sans ses boucles, on voyait la lumière au travers des lobes. Tsomo s'était toujours tellement soucié de l'effet que produisaient ses anneaux qu'elle n'avait jamais remarqué la taille de ses oreilles. Elles étaient immenses, de véritables appendices plantés de chaque côté de sa tête. Elle avait un visage rond et plat qui lui rappela la plaque sur laquelle mère faisait cuire ses crêpes au sarrasin, ce qui la fit rire. Le coiffeur lui lança un regard de pitié. Il devait la prendre pour une folle. Voilà.
Super, très beau. Merci beaucoup, Valérie.
Avec plaisir.
On va donc changer d'endroit. Pauline est par là. Salut, Pauline. Hop, je prends une petite photo.
Loupé.
Je n'y apparais pas, mais ce n'est pas grave. Comment ça, loupé? Elle est très belle.
On va la faire de l'autre côté.
Qu'est-ce que je voulais te dire, Pauline? Oui, on va passer du Bhoutan à l'Altaï. Avec Sous la montagne blanche de Galsan Chinag. Alors juste au passage, l'Altaï, c'est donc une chaîne de montagnes d'Asie dont l'appellation comprend diverses acceptions liées à la zone située entre la Russie, la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan, où les grands cours d'eau Irich et Ob prennent leur source. On est plutôt du côté de la Mongolie avec cet auteur.
Tout à fait, oui. Du côté de la Mongolie, et on est un peu sur un texte autobiographique. Alors dans mon livre, Le héros s'appelle, et je ne le dirai qu'une fois, Tchourougoua, je suppose.
Appelle-le Tchourou.
Et donc, a priori, il représenterait l'auteur. Ce serait en partie autobiographique. Et donc, c'est un jeune homme, un brillant écolier, qui écrit beaucoup de poésie, qui rêve d'ailleurs, et plus que de rêver, qui se présente dès le début, dès le prologue, comme le prochain grand écrivain de l'histoire mongole. Et donc, il est reconnu dans son école pour ça. D'un coup, après une espèce d'épisode un peu troublant, un début un peu particulier, où toute l'école assiste au départ d'une jeune maman qui a eu des jumeaux mais qui ne peut plus s'en occuper, qui vient se faire récupérer en avion par les autorités. Voilà, il assiste à ce départ en avion. D'un coup, il chute, il est malade. Voilà. Il rentre dans une espèce de délire qui dure pas mal de temps. Il a beaucoup d'hallucinations, il se fait poursuivre par des animaux. La fameuse maman et ses deux jumeaux sont jetés par la fenêtre de l'avion. Bref, c'est une espèce de délire très étonnant. Très franchement, je savais pas vraiment où j'allais au début de ce roman. Ça dure un moment, puis il se réveille doucement et se rend compte qu'il est dans la yourte de sa tante, qui est une chamane et qui est là pour le soigner. Et là commence cette espèce d'ambiance un peu. On imagine de la fumée, on imagine des odeurs, une moiteur, on imagine une ambiance, on le sent malade et on vit cette lourdeur avec lui. Et puis là, voilà, il nous parle de sa guérison lente, de sa guérison et de ce qui se passe dans son esprit, de sa poésie, de ce qu'il imagine. On est souvent un peu perdu parce qu'on ne sait pas ce qui ressort de ses délires ou de presque sa transe, parce que c'est... entre le délire, la rêverie, la transe, toute cette période de soins et qui le verra finalement renaître par une scène de renaissance même, puisque au terme de sa maladie à laquelle il réchappe, alors que bon, on sent que c'est un peu violent, hein, clairement, ils vont recréer une scène de naissance où sa tante va accrocher un fil rouge à son nombril et elle se l'accrocher, alors où précisément je ne peux pas vous le dire, mais bref, le recouper, rejouer la naissance, et donc elle devient sa nouvelle mère qui prendra soin de lui parce qu'elle l'a fait renaître. Et il renaît à la fois en tant que poète, mais en même temps, il redécouvre, en fait, son, en tant qu'écolier, il est loin de la maison. Il est interne, comme, voilà, comme tu disais, ils sont souvent loin de leur maison, donc loin de la tradition qu'il a vu grandir. Et là, le fait de se retrouver dans cette yourte avec sa famille, il redécouvre sa famille, redécouvre ses traditions. Et il va grandir. Il va grandir avec ça, avec son côté très académique, très scolaire, très poète, et cette ambiance chamanique qui trône autour de lui, avec tout ce qui se passe entre ces deux mondes. Alors, si on lit la quatrième de couverture, il me semble qu'il parle de déchirure entre la tradition et la modernité. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Au contraire, je trouve, j'ai plutôt ressenti qu'il grandissait avec les deux et qu'effectivement, il se sentait un peu l'obligation de faire un choix, mais pas déchirant. C'est-à-dire qu'il a ces deux personnalités qui vivent en lui, ce poète qui veut faire de grandes études, qui veut travailler, qui veut devenir un homme de lettres, et ce peut-être futur chaman ou futur même berger. Bref, il a plusieurs horizons qui s'ouvrent à lui et qui sont très différents les uns des autres, et donc il va chercher ça tout en découvrant l'amour. Voilà, en parallèle de tout ça, il y a des rencontres avec des filles, voilà, des rencontres, les premiers émois sexuels. Alors il y a des drôles de passages. J'ai essayé de trouver un passage à vous lire, mais que j'ai pas retrouvé et qui moi m'a marqué. Ses premiers baisers, en fait, il se retrouve à vouloir faire goûter le lait d'une de ses brebis à une fille qui lui plaît bien, et pour lui faire goûter, il tète le puits de la brebis et lui fait passer le lait de bouche à bouche. Et c'est dit avec, comme ça, sur le principe, c'est sûr, je vois que des yeux qui se lèvent, ça ne fait pas forcément rêver, mais c'est très joli, la façon dont, qu'il a de le raconter. Je trouve que c'est très doux, c'est très mignon. Alors, on a l'impression que c'est un enfant qui parle, mais le temps passe bizarrement, c'est-à-dire qu'à un moment, il se retrouve adolescent de 16 ans, alors que j'ai l'impression de toujours me retrouver face à un enfant. Mm-hmm. Mais non, il joue même parfois avec donc ses amis, eux, au papa et à la maman. Mm-hmm. Vraiment, hein, il recrée la scène de la yourte et on fait ci, on accueille ça. Et en fait, c'est des jeunes de 16 ans. Donc c'est très étonnant pour nous. Je me suis dit que c'était un livre qui avait été écrit par un Mongol pour les Mongols, mais finalement, en regardant la quatrième de couverture, j'ai vu que c'était traduit de l'allemand. Alors je sais pas si.
Alors je sais pourquoi.
Ah, tu sais pourquoi.
Je vous le dirai.
Ah, ouais, parce que
je me suis posé la même question.
C'est moi qui fais les bio. Ah.
Tu sais pourquoi, non, toi aussi, c'est ça.
Mais voilà, du coup, je me dis que son public finalement était peut-être pas les Mongols. Donc voilà, il y a de drôles de choses qui sont étonnantes pour nous. Et c'est une parmi d'autres que je viens de vous citer.
C'est drôle parce qu'on a le même auteur avec Claire aussi que toi, et moi je ne retrouve pas du tout le livre que je viens de lire dans
ce que je dis,
ce que tu es en train de nous présenter.
Moi, complètement. Ah
ouais. Et je vois Claire qui dit oui depuis tout à l'heure, qui retrouve. Ouais. Alors, il vient d'une famille de chamans, en fait, d'où, voilà, il est né en 44 en Mongolie. En fait, après avoir passé son bac dans sa ville natale, il est parti en RDA, à Leipzig, en 62, grâce à un programme d'échange entre pays communistes. Et de là, il a étudié Karl Marx, la germanistique, à l'université, il a créé un mémoire, il est retourné en 68 en tant que professeur d'allemand en Mongolie.
Ah.
C'est pour ça que il a arrêté en 76 pour des raisons politiques. Il a atterri dans une maison d'édition pour être traducteur jusqu'en 87, maître de conférences, et après il a commencé à écrire en allemand ses premiers romans qui ont été par la suite traduits en français, en anglais et peut-être en russe même. Ça vous va, Madame Claire ?
Oui, c'était très bien. Non, mais c'est vrai. Enfin, dans mon livre aussi, voilà, je voyais bien. C'était Der Himmel, je sais plus quoi le titre originel. Der Blaue Himmel. Et je me suis dit, mais comment un livre mongol est écrit en allemand ? Enfin, c'est voilà. Mais en fait, non, c'est tout simple. C'est l'histoire de l'URSS.
Au revoir,
Valérie.
Au revoir,
Valérie.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Du coup, on va rester avec cet auteur. Avant de d'en parler, on va peut-être faire une pause musicale. On va partir. Tu vas aller où, Claire?
Dis-moi. Ah bah, tant au qu'à Bhoutan, faire, ça serait pas mal d'écouter. Oui.
En Mongolie, au Bhoutan ou en Mongolie?
Bon, en Mongolie parce que j'ai lu un livre mongol, mais.
Allez, c'est parti. Allez, on est revenu dans cette émission. On reste à parler de cet auteur mongol, Claire. Quand je me suis renseigné un peu sur par rapport à mon livre que je vais présenter après toi, qui s'appelle Belek, une chasse dans le Haut-Altaï, beaucoup de lecteurs disaient avoir acheté ce livre pour retrouver les émotions qu'ils avaient pu ressentir dans Ciel bleu. Donc Ciel bleu, c'est le livre que tu vas nous présenter.
Oui, et qui fait une parfaite transition avec donc celui de Pauline, dont je retrouve énormément de thèmes. Voilà, sur la fin de l'enfance, la fin d'un monde, la fin d'une culture, la mort des bêtes, et puis voilà, certaines caractéristiques aussi sur la temporalité qui peut être un peu étrange. Donc je la partage tout à fait. Donc ce que je vais vous dire, c'est que pour le narrateur, l'école, c'est surtout une idée lointaine, un mot qui oblige à quitter ses parents pendant de longs mois. C'est un mot qui arrive par le biais d'un cavalier un beau jour, ou plutôt un mauvais, parce que c'est triste. Voilà, ça, un jour, un cavalier arrive sans qu'on s'y attende. Et donc, le cavalier porte une sacoche de cuir. Donc, c'est la preuve, voilà, pour ces gens qui habitent dans les steppes, que c'est une personne importante. Il représente l'État. Et donc, cette personne annonce aux parents du narrateur que les enfants doivent partir à l'école. Donc, à 8 ans, le narrateur voit son frère et sa sœur quitter les steppes pour vivre en ville et apprendre à lire et à écrire. Donc on sait que le trajet met environ 12 heures à dos de cheval. Donc les deux enfants sont sur un cheval, le père aussi, chacun porte de lourds bagages. Voilà, donc le père met 24 heures pour aller-retour pour emmener ses enfants. Donc on imagine à quel point voilà la séparation est déchirante, puisqu'on va mettre... on rentre pas tous les soirs dans ces conditions. Donc lui aussi, il va suivre ce parcours, bien qu'il n'en soit pas encore question dans l'ouvrage. Donc comme on l'a dit, il deviendra germanophone.
Et donc Ciel bleu, il a paru pour la première fois en 94. Alors, il raconte, moi j'ai trouvé avec une grande pudeur la fin de son enfance. Alors, c'est ce que voilà, c'est comme ça que j'ai traduit les choses, de la pudeur, parce que il le dit pas, mais ce qu'on comprend. Et effectivement, il y a un souci, la temporalité est assez étrange, parce que parfois il est question, on soupçonne, on comprend qu'il est le plus jeune, donc il a forcément moins de 8 ans. Quelques chapitres après, le livre est pas gros, hein, le mien il fait à peine 150 pages. Il a 18 ans, on n'a pas vu les années passées, c'est comme ça. Donc il raconte la fin de son enfance et aussi en filigrane un monde qui se meurt. Donc celui de sa culture, il est de culture tout va. Il est aussi victime de l'oppression de l'URSS, donc la culture, et des assauts de la modernité. Donc le cœur de la culture tout va, c'est le mouton. Il y a quand même des petits parallèles avec la Lozère. Et donc une nette préférence avec l'espèce à tête noire et oreilles courtes. Avoir des moutons à tête noire et oreilles courtes, c'est vraiment fantastique. Et plus le cheptel est gros, plus on est considéré dans la communauté. On devient un bage, c'est un mot de la culture touva qui veut dire homme riche. Et donc on devient un homme riche à partir de 100 têtes de bétail. Pardon, 1000 en plus, 1000 bêtes. Donc vous imaginez quand même le... Voilà. Mais voilà, à travers des petites phrases comme « le temps des bages est révolu », on comprend que voilà, c'est une culture qui se meurt et que la richesse se traduit par d'autres choses et notamment l'argent qui commence à entrer dans les poches.
L'arrivée des coopératives et ce genre de choses aussi, j'imagine.
Alors le récit est raconté à hauteur d'enfant, donc sait pas tout ça, mais il raconte les petits bouts de papier que les adultes s'échangent, qui pour lui n'ont aucune valeur parce que pour lui il y a que les moutons. Voilà, c'est palpable, c'est réel. La brebis, elle est centrale dans cette culture tout va parce qu'elle fournit d'abord du lait qui est évidemment un breuvage qu'on consomme en tant que tel, mais aussi sous forme de petits fromages blancs séchés qui sont des espèces d'encas qu'on peut mastiquer toute la journée. On les range dans sa poche de poitrine, comme ils appellent ça. Donc c'est une poche qu'on peut atteindre avec la main droite. Donc là, on comprend le croisement de ces espèces de vestes un peu comme un cache-cœur. Donc le lait, il est également sacré puisqu'il sert à conjurer le mauvais sort, à soigner, à invoquer la bonne fortune des voyageurs. Quand les gens s'en vont, on disperse des gouttes de lait derrière eux. Et quand l'animal a fait son temps, donc ça c'est la formule consacrée, on dit l'animal a fait son temps, ça veut dire qu'il est trop vieux, mais qu'on va pas le laisser mourir de sa belle mort. Donc on va l'abattre, se nourrir de sa chair, faire des couvertures de feutre avec sa laine et tout un tas d'objets avec sa peau. L'enfant, il est associé à chacune de ses activités, il contribue à la hauteur de ses forces et de sa capacité, et il enregistre dans sa mémoire corporelle les gestes ancestraux. C'est aussi, évidemment, un apprentissage. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment ce récit, je l'ai trouvé très beau, très fort, j'ai beaucoup pleuré, je peux l'avouer. Donc il parle de l'hiver, on est vraiment au cœur de l'hiver avec eux. Alors il parle du vent qui est fatigant pour les yeux, là je cite, qui paraissait scier, couper, piquer, arracher tout ce qui se mettait en travers de son chemin. Il sifflait et hurlait sans relâche. Et l'auteur, qui est encore un jeune enfant à ce moment-là, raconte les épisodes de tchout. Alors les tchout, c'est la tempête en tout va. Où les bêtes, elles ont tellement froid, donc évidemment elles sont pas dans des yourtes, hein, elles sont dehors, qu'elles ne peuvent pas se nourrir dans les pâturages. Donc pendant ces épisodes de tchout qui peuvent durer plusieurs jours d'affilée, les éleveurs confectionnent des pis-aller, qui sont des mélanges d'une plante qui pousse même en hiver avec du crottin, du sel, un peu de lait. Enfin voilà, c'est vraiment pour maintenir les animaux en vie. Mais malgré ça, les agneaux les plus fragiles meurent de froid. Et vraiment, on se dit, on est pris dans la lecture des lignes. On se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? À chaque fois qu'un personnage rentre dans la yourte, parce que ça y est, il annonce encore une mort et une autre, et puis deux, et puis trois. Et vraiment, on est meurtri. Enfin, on est en totale empathie, je trouve, avec ces gens qui luttent pour leur survie dans des conditions terribles. Donc, les éleveurs pleurent leurs bêtes, mais qui ne sont pas seulement une source de nourriture pour eux, mais qui ont aussi, donc, toute chaque bête a un nom et une histoire. Donc, celui-là, on l'a nommé comme ça parce que c'est la grand-mère qui l'a donné pour la naissance des enfants. Celui-là, il est arrivé un jour où la météo était radieuse. Un autre, c'est parce que c'est l'agneau d'une brebis qui était très, très affectueuse, qui se comportait presque comme un chien. Enfin, voilà. Donc, chaque animal a vraiment une identité. Une singularité, et la perte, elle est pas seulement économique, elle est aussi affective. Donc on imagine, hein, pendant toutes ces épisodes de blizzard où la météo est horrible et ces bêtes meurent comme des mouches, c'est vraiment, c'est terrible.
J'en ai eu une, moi, tempête de neige aussi, je sais pas si tu en as eu, Pauline.
Très peu,
voilà.
Voilà, donc comme je vous l'ai dit, donc les conditions de vie sont extrêmement dures, mais il n'y a pas de place non plus pour l'apitoiement, en fait on n'a pas le temps, voilà, parce que quand une bête meurt, donc il faut sortir en pleine tourmente dans la nuit pour la dépecer, parce qu'on peut pas attendre que la bête, la carcasse gèle, voilà, sinon tout ça serait perdu, le peu qu'il y a à prendre, la viande, la laine, tout ça serait perdu. Donc l'enfant, il sort, il fait sa part, il raconte comment il doit ouvrir le ventre de la brebis, comment ses mains gèlent, enfin voilà, c'est assez incroyable. Mais ce que j'ai trouvé de plus beau dans ce texte, c'est les pages qu'il consacre à la relation avec son chien. Il a une véritable amitié avec son chien, c'est très très bien décrit. Tous les jeux, toutes les réactions, l'intelligence du chien, la complicité, tout ça c'est raconté avec énormément de sentiments, et c'est là-dessus qu'il va le plus s'étaler. Parce que tout est raconté d'une manière très juste, très concise, sauf tous les passages avec son chien. Donc on sent bien qu'il est très attaché avec son chien, il s'y attarde, et il met beaucoup de sentiments, c'est très bien raconté. Il y a une vraie empathie, et c'est vraiment des très très beaux passages, ce que j'ai préféré. Voilà, donc si ça vous donne envie de poursuivre sur les œuvres de Galsan Chinag, il y en a beaucoup d'autres, elles sont parues au Métayer et chez Piquier.
Il parle pas, toi, de l'arrivée du communisme, enfin vous, il en parle pas?
Un petit peu. C'est présenté comme un thème du livre un peu partout, si on lit toutes les critiques. Je l'ai pas ressenti tant que ça dans la lecture. C'est pour ça que je te parlais des coopératives, ouais, notamment, ouais, ce genre de choses. Voilà, c'est un petit peu présent, ouais, mais c'est pas pour moi le thème central.
Alors moi non plus, et surtout que c'est à hauteur d'enfant, mais en revanche on le comprend bien, parce que par exemple sa tante est chamane aussi là dans ce livre, et il dit que voilà, les pratiques seront bientôt interdites. Il fait un peu d'anticipation. Et
d'accord.
On comprend que c'est voilà, les lois soviétiques interdisent ça.
Très bien. Et il y a des très belles, moi, descriptions de paysages que j'ai retrouvées un peu dans tes propos.
Oui, moi aussi.
Et dans les tiens, Pauline. Donc moi, je vais vous présenter ce troisième livre aujourd'hui de Galsan Chinag qui s'appelle Belek, une chasse dans le Haut-Altaï. C'est deux contes assez courts, le premier du nom du livre et le second qui s'intitule Une histoire tout va. Donc tout va, tu nous en as parlé, hein, à l'instant. Claire. Donc sur la première histoire, c'est l'histoire d'un journaliste qui apprend la mort de Belek, qui finalement est un homme simple, qui, parvenu au crépuscule de sa vie, tue un loup avec un gourdin. Donc de retour dans son village natal, il vient pour parler de cet homme. C'est les gens de son village qui disent « Viens, toi qui es un journaliste là-bas dans la ville, parle un peu de nous, fais connaître notre village. » Par exemple, il y a une histoire formidable de Belek qui vient de tuer un loup avec un gourdin. Donc il retourne là-bas pour en parler. Quand il retourne sur place et qu'il apprend ce qui s'est réellement passé, l'histoire de cet homme, c'est moins joli qu'il n'y pensait à la base. La seconde histoire, c'est à peu près pareil. C'est d'ailleurs, je crois qu'elles étaient liées, les deux histoires. C'est l'histoire du vieux, alors qui s'appelle Jia Niwek, qui vit solitairement en butte à l'hostilité générale, et pourtant le narrateur choisit d'aller avec lui traquer le loup. Alors ça n'a aucun rapport avec la première histoire, je le pensais au départ. Surpris par un orage, il s'abrite dans un ancien campement d'hiver, et là le vieillard taciturne commence à parler, à lui raconter sa vie. Il raconte l'histoire du fils qu'il n'osa jamais reconnaître. Donc c'est deux contes extrêmement, c'est très poétique, très bien décrit, c'est tragique, c'est des drames. On se retrouve dans ces montagnes, dans ce froid, en chasse, le tout troublé quand même par une époque où il y a eu la révolution communiste qui est arrivée, donc on voit les gens qui commencent à arriver. Pour ce Bélec, par exemple, il dit « Est-ce que tu es bien traité ?» Alors ce Bélec, il n'est pas extrêmement bien traité, il est berger, il s'occupe de moutons bénévolement d'un couple qui lui promet une yourte et plus tard son troupeau, bien sûr ça n'arrivera jamais. Et donc il dit « Ben oui, je suis heureux » et le propriétaire à côté il dit « Oui, oui, on va lui offrir une yourte, un campement, oui, oui, je suis heureux ». Alors attention, parce que avec le communisme, on rigole pas, il faut pas qu'il y ait les grands propriétaires et les autres. Mais ça arrive en marche, cette histoire des communistes qui partent d'ailleurs, qu'on revoit pas forcément avant la toute fin. Et donc sur cette histoire, sur ce Bélec, qui est heureux, qui est quelqu'un de naïf, un peu bêta, qui aime ce qu'il fait dans les pâturages avec ses bêtes, c'est pareil, c'est les moutons. Il voit quatre gredins qui arrivent, qui lui demandent de chasser le loup. Donc lui, il montre une tanière parce qu'il sait qu'il y a une tanière de loup. À savoir qui c'est qui va aller pour essayer de sortir le loup, de l'attirer. Donc bien sûr, c'est Bélec qui finit par y aller, qui fait fuir le loup. Et à l'intérieur, il y a quatre louveteaux que les gredins vont tuer pour exhiber, pour dire on a tué des louveteaux. De cette histoire, mais la louve rentre dans une colère et tue plein d'agneaux du coin. Et donc tout le monde en va à Bélec en disant c'est de sa faute. Si la louve l'a mis en colère, c'est lui qui a montré où était la tanière, et les gredins, on s'en fiche, ils sont partis, c'est Bélec, donc Bélec ne reviendra au village que quand il aura tué la louve. Et de là, il part à essayer de la tuer, la louve, et on le suit jusqu'à la fin de sa vie, finalement. Ce Bélec est avec que des drames sur drames. Enfin, c'est terrible à lire, c'est terrible. Oui. Et c'est très beau.
Oui, oui. On retrouve l'ambiance, hein. Oui, terrible à lire et très beau.
Très beau. Donc, amoureux des paysages, plongez-vous dans des livres comme ça, en plus de toute cette poésie, toute cette culture mongole qui est très belle. J'ai noté deux passages. Alors, c'est alors que d'un coup l'air se remplit d'oiseaux, des milans, des corneilles, des alouettes, des tourterelles et des mouettes, ces pauvres compagnons des mers qui continuent à s'égarer jusqu'ici sur les larges routes bleues qu'avaient empruntées leurs ancêtres. Mais il y avait bien longtemps de cela, c'était loin, très loin dans le passé, à des millions d'années, et de cette mer n'était resté que le fond asséché, la steppe et ses 100 millions de pierres polies et ses coquillages. Voilà. Et j'ai d'autres passages, mais je vais pas tout vous lire. Donc voilà, donc moi je suis comme vous, très beau, très poétique, des fois assez dur, et c'est un bel exemple de cette culture mongole. On rentre vraiment dans ça.
J'ai un passage à vous lire.
Allez, vas-y. Okay.
Tête Noire était un agneau orphelin. Sa mère avait été dévorée par un loup à sa naissance. Constatant sa disparition, grand-mère l'avait cherchée. Lorsqu'elle l'avait enfin trouvée, elle était couchée dans la neige et il y avait cet agneau tout tremblant près d'elle. Il était sur le point de mourir de froid et de faim. Il n'avait pas réussi à boire le colostrum. Grand-mère a vu le pis gonflé, intact. Elle l'a pris dans sa main. Il était encore tiède. Le loup devait s'être éloigné juste au moment où elle arrivait. Le malheureux petit, qui avait d'ailleurs cherché tout seul le pis maternel, n'a pas tardé à trouver la mamelle et s'est mis à téter. Puis il a bu aussi à l'autre mamelle et sa fringale a semblé calmée. Grand-mère a mis l'agneau orphelin dans sa poche de poitrine pour rentrer à la maison. Elle a d'abord senti sa fraîcheur, puis sa chaleur, et quand elle est arrivée, elle l'a trouvé paisiblement endormi. Elle l'a emmailloté comme un bébé et l'a gardé pour la nuit près d'elle, dans son lit. Le lendemain matin, il a eu une nouvelle mère. Il est resté en vie, il a profité. Une chance qu'il ait pu boire encore le colostrum, ce lait épais et jaune d'or au pied de sa mère. Ne pas en boire à sa soif empêche de bien profiter. Il en va ainsi pour tous les êtres vivants, et ce n'est pas pour rien qu'on en parle comme d'un lait de vie. Mangez de cette viande et buvez son bouillon, a conclu grand-mère. L'agneau orphelin était devenu un gros mouton, et la femme solitaire redevenue une mère dont la yourte était pleine d'enfants. Les choses auraient-elles pu tourner mieux ?
Voilà, c'est très beau. Ouais.
On pourrait presque le lire à un enfant.
Ah oui, alors oui, c'est ce que je voulais dire aussi. T'as raison, Pauline. Ça peut se lire très jeune. Je pense à partir de peut-être 12, ouais. 13 ans, ça se lit très bien.
Oui, moi aussi. Malgré la dureté de l'histoire, oui. Ça se lit très jeune aussi. Ouais. Allez, on va changer, mais justement, on parle d'enfants, quelle transition. Qui c'est qui a lu des livres jeunesse aujourd'hui? C'est Marlène. Plein. Alors, je te laisse choisir parce que tu m'as donné plein de titres, donc on va te laisser choisir dans ton ordre de préférence.
Il y en a beaucoup, et c'est bien que tu parles de ça tout de suite, parce qu'en fait, comme on parlait tout à l'heure du déchirement quand les enfants partent vers 9 ans dans les internats, en fait, il se trouve que là, les trois livres... que j'ai donc Le Cheval Blanc de Suro, donc ça c'est le titre, hein, de Yuzo Otsuka, ou alors
paru chez Circonflex,
voilà, ou alors Ma Petite Maison Ronde de Bolormara Bansan Suren
chez Rue du Monde,
voilà, ou alors Maman est là de c'est super compliqué.
Ouais, c'est...
Ishinorov Gambatar et de Bansa Suren de nouveau Bolarma.
Okay.
En fait, chez Siros, celui-là, ces trois histoires-là, en fait, on sent vraiment le cocon familial et tout se joue autour du bébé qui vient de naître et de la relation qu'il a au monde au tout début, en fait. Donc, on sent vraiment... là, on est en Mongolie aussi, comme vos livres. Donc, on sent vraiment que... Le petit être, il est choyé. C'est, la yourte est ronde, mais en fait, tout son monde, il est rond. C'est tout doux, c'est très protecteur, etc. Et du coup, on se dit, ouais, alors ça, c'est ce qui ressort dans leur littérature jeunesse. Et puis d'un coup, on a une énorme transition où paf, à 9 ans, on te coupe tout. Et en fait, tu te retrouves dans le monde des adultes, super loin. Tu oublies ton cocon et voilà quoi. Ça, c'est ce que je me fais comme réflexion à la lecture de ce que vous avez raconté et de ce que moi j'ai lu là, en fait. Donc c'est vraiment, ces histoires, c'est juste qu'en fait, ils racontent leur tradition et la façon dont c'est fait, mais c'est toujours, voilà, très, très doux, très, tu vois, tu parlais de l'agneau. En fait, l'agneau qui est un peu considéré du coup là comme un bébé, quoi,
oui,
pour
oui,
une partie.
Oui, oui.
Donc là, c'est pareil. En fait, on sent tous les. Puis ma mère m'a enveloppée dans un grand tissu, et m'a pris dans ses bras et a chanté pour moi. J'ai senti pour la première fois la bonne odeur de la marmite qui mijotait. Enfin voilà, c'est tout en rondeur, c'est tout en douceur, et voilà, on voit les petits qui grandissent comme ça, qui suivent les caravanes, qui sont emmitouflés, qui sont... Enfin, dans toutes ces histoires, en fait.
Est-ce que donc, ça s'arrête avant 9 ans, ces histoires, ou ça va plus loin?
Eh ben, en tout cas, sur ces trois-là, c'est des tout-petits.
D'accord. Ah
oui, c'est des alors, bébés, ouais. C'est de la naissance, et c'est... En fait, à chaque fois, il y a des images... Bon, en plus, les illustrations, elles sont toutes un peu les mêmes. Alors là, bien sûr, à la radio, vous verrez pas, mais...
Ouais.
Dans les livres, c'est un peu tous ces traits-là. On reconnaît quand même beaucoup...
Il y a beaucoup de rondeur, ouais.
Le classique, oui. C'est ça. Et en fait, tous, c'est des bébés emmitouflés qui naissent, où on leur raconte... Alors là, c'est... Maman, elle est là, ne t'inquiète pas, elle part pas bien loin, même si, d'un coup, tu te retrouves tout seul à explorer ta yourte et ton petit monde qu'il y a autour. Voilà, là on est dans les steppes, on rencontre des animaux, là c'est voilà Ma Petite Maison Ronde, enfin voilà, on est tout dans ce dans
sur
ce
la,
petit
sur
monde
la
là.
Couverture de Ma Petite Maison Ronde, il y a un bébé dans un panier en osier et dans de la laine, hein. On l'imagine tout nu dans un panier de laine,
c'est ça.
Et il est transporté sur un dos de
chameau,
non c'est l'autre là, de
dromadaire
du coup
c'est l'autre,
ouais. Et enfin ouais, super mignon. Ouais, ouais, ils sont en transition,
c'est
là.
Ça.
Ils sont des transits.
C'est ça. Bah, ils suivent
ils suivent le mouvement de la vie.
Tu vois qu'il est tout nu. Ouais. Il est tout nu dans son panier.
Ah oui,
de laine.
Il est tout nu.
Et puis, il y a les emmaillotages au début où, du coup, en fait, c'est vraiment ça. On sent cette, que ce soit dans les illustrations ou dans le texte, on est dans ce cocon-là, dans je raconte un petit peu. Et en fait, là, c'est presque dans tous ces textes. On se met à la place du bébé qui découvre tout son petit monde et
ouais, ça donne
mais
envie
qui est protégé,
de se plonger,
qui est
hein.
C'est ça, c'est tout doux, c'est tout et puis bon bien sûr dans toujours un petit peu ce qui ressort aussi après des livres adultes, mais toujours dans ce respect de la nature, comme oui. tu l'as bien dit avec les traditions où tous les êtres, tout est respecté et tout a un sens et voilà, c'est donc voilà pour cela, mais c'est compliqué d'en choisir un seul parce
non, mais
que
c'est
du coup
bien
oui, mais c'est
comme
des
ça.
Thèmes oui
voilà.
qui se retrouvent de l'un
voilà.
à l'autre.
C'est super.
Et ouais. Je trouve que ça fait bien, enfin on voit bien la différence entre l'univers qui garde un peu comme ça tout doux pour les enfants pour le raconter et une coupure quand même assez nette sur la littérature adulte qui sera quand même un peu plus rude et qui racontera les choses voilà,
ouais, avec des illustrations très vives, très colorées.
C'est ça. C'est voilà, c'est tout doux quoi.
Oui.
Ensuite, Alors on est parti, hein, tu nous présentes.
Ah, je suis parti. Vas-y, tiens, alors, voilà. Autre chose. Alors après, on est plus sur du coup des livres sur ben on va partir sur les préceptes du Dalai Lama. Ah, donc
pour les enfants.
Pour les enfants. La graine de la compassion. Donc là, avec tous, ben, avec l'explication du bouddhisme, de la compassion et de, mais pour les enfants. Voilà. Et ou alors un autre. Donc graine de la compassion du Dalai Lama. Alors du coup, attends, c'est pour l'édition.
Ah oui.
Chez Florus. Voilà. Avec vraiment le
leçon de vie et enseignement à l'usage des enfants par sa sainteté le Dalai Lama.
Voilà. Donc c'est vraiment les préceptes qui sont expliqués, qui ont été repris à hauteur d'enfants. Et sinon celui-là c'est questions d'enfants et réponses zen. Donc pareil. On est moins en direct Dalai Lama, mais c'est pareil. C'est sur le bouddhisme. C'est qu'est-ce que la vie, la mort, la famille, la peur, l'amitié. Voilà. Toutes les petites questions et comment on peut expliquer ce qu'est le bouddhisme à des enfants en fait. Assez simplement. Voilà pourquoi les gens se font-ils la guerre, et bon il y a les voilà, on explique ce que c'est, comment rester calme alors que je vois tant de vilaines choses dans le monde. Enfin, c'est tout bête, mais c'est sur la gestion voilà des émotions, sur la gestion de voilà.
Très bien,
c'est
ça.
Les préceptes du bouddhisme en même
voilà temps. Et confronter des enfants occidentaux justement à cette vision, c'est extrêmement intéressant.
Oui, qui est philosophique peut-être plus encore que religieuse. C'est marrant, Valérie le disait tout à l'heure, et c'est vrai que là, c'est un livre qui parle du bouddhisme, mais en fait les questions que tu poses sont plutôt philosophiques.
C'est ça. Comment se comporter face au monde. De toute façon, là, c'est un peu... Enfin, voilà, le bouddhisme, si on reprend un peu... j'ai perdu mes trucs. Les préceptes, on est quand même sur... le but, c'est apporter la paix et l'harmonie. Bon, en ce moment, en plus, il y en a bien besoin, donc c'est bien de les relire, ces préceptes. C'est aussi arriver à susciter un regard qui soit curieux, bienveillant sur l'humanité. Voilà. Et que tous les êtres humains ont leur place et qu'on doit vivre dans des cercles karmiques positifs. Donc voilà, on est... Et après, ça, c'était pour la jeunesse. Je sais pas si j'ai juste le temps de...
Allez, t'as le temps.
Alors, j'avais juste aussi qui a été regroupé par Thalie de Molène, 31 contes du bouddhisme. Alors là, celui-là, il me plaît beaucoup parce qu'en fait, donc, ce sont des illustrations qui sont extraites d'un très très vieux ouvrage qui date du XVIIe siècle et qui retrace les prédictions qu'avait fait le régent du Tibet à l'époque, donc en 1600 et quelques, exactement, je sais plus. Et donc en fait, ils reprennent donc les gravures, c'est vraiment ce que lui il avait peint
dans un parfait état de conservation, super coloré, magnifique.
Voilà. Dans le but donc de diffuser les prédictions bouddhistes. Et là, j'ai retenu qu'un texte parce qu'il y en a 31, donc voilà, mais ça reprend un peu les préceptes du bouddhisme, ça reprend plein de choses, mais j'ai bien aimé celui-là et j'aime beaucoup. Celui-là, et donc c'est très court, ça s'appelle « Un sot ami », donc « sot » comme la sottise. Dans le bouddhisme, on met en garde contre l'ignorance et la sottise. Ça, c'est le sous-titre. Dans ce temps-là, le Bouddha accompagné d'Ananda marchait sur les chemins de l'Inde, allant de village en village. Ils arrivèrent dans un petit bourg isolé perdu dans les montagnes. Tous les gens qu'ils rencontraient étaient estropiés. À chacun, il manquait une oreille, à d'autres le nez, à d'autres un morceau de joue ou encore de la chair de l'épaule. Le Bouddha et son disciple demandèrent si une maladie s'était abattue sur ce village. On leur apprit que les habitants de ce lieu avaient une grande horreur des moustiques. Le soir, ils se rendaient le service de les tuer. Armés de pelles, ils tapaient sur les moustiques qui piquaient leurs voisins. C'est ainsi qu'ils se blessaient. Le Bouddha rit et dit « Cela me rappelle un charpentier que j'ai connu dans une autre vie. Il était agacé par une mouche qui tournait autour de son visage. » Alors il demanda à son fils de l'en débarrasser. Le fils attendit que la mouche se posa sur la tête de son père pour la frapper d'un coup de bâton qui tua le père. Il soupira et sortant de ce village, il dit « Mieux vaut un ennemi intelligent qu'un sot ami. »
Génial, super.
Je voulais terminer par ça parce que je trouve ça quand même assez fabuleux.
Très, très drôle.
Ouais, excellent. Voilà. Quelle maison d'édition
Alors du coup sur celui-là... Oh, pardon. Fanlac.
Fanlac, d'accord, je connaissais pas.
Périgueux, donc c'est, voilà. Ah. Je pense que c'est une petite.
Un éditeur de région,
voilà. Petit éditeur.
Eh bien, ça y est, ça fait une heure. pour notre première émission de rentrée où on a attendu un peu pour la rentrée littéraire qu'on va vous proposer le prochain mois sur le mois de novembre, mais ce sera une rentrée littéraire un peu particulière. On va sortir un peu des sentiers battus pour vous proposer une autre rentrée littéraire que celle que vous pourrez retrouver partout. Hein, Claire?
Ouais, je l'espère en tout cas.
C'est bien parti vu les livres qui passent en ce moment entre nos mains. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Salut.
Salut. Salut. Au revoir.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.